01 46 03 07 07. Renaud Blanc sur Radio Classique.
7h39 sur Radio Classique, nous sommes mercredi. Et le mercredi sur notre antenne, vous le savez, c'est cinéma, cinéma avec Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour Renaud.
Des sorties intéressantes aujourd'hui dans les salles obscures. On débute avec un thème musical que vous connaissez, vous auditeurs, forcément par cœur. Thème évidemment de Mission Impossible, revu et corrigé par rapport à la série télévisée. Mission Impossible 7 sort aujourd'hui dans nos meilleures salles avec évidemment Tom Cruise. Samuel, vous m'avez dit, c'est du bon, c'est du très bon Mission Impossible et du grand cinéma d'action.
Absolument. C'est ce que l'on appelle, c'est l'une des franchises les plus réussies, les plus solides de ces dernières décennies, clairement. Et qui, en fait... Tout ce qu'on n'est plus James Bond depuis si longtemps se retrouve désormais dans Mission Impossible.
Ouais.
C'est donc le cinéma d'action américain dans sa plus intéressante incarnation aujourd'hui.
Alors l'incarnation, mieux que 007, c'est Tom Cruise. Ça fait 27 ans qu'il est à la tête de Mission Impossible, qu'il s'appelle Ethan Hunt. Tom Cruise, il reste crédible malgré les années. Le temps n'a pas de prise sur Mr. Cruise.
Absolument. Il reste extraordinairement crédible. J'irais même qu'il reste plus crédible que jamais. Comme vous dites, Renaud, ça fait 26, 27 ans qu'il tient cette série à bout de bras. Et c'est le cas de le dire véritablement à bout de bras, puisqu'en fait, en 26 ans, il s'est passé tellement de choses. Le cinéma a vécu la plus grande révolution technologique de son histoire depuis l'irruption du parlant avec le numérique. Et en même temps, durant cette révolution, nous avons assisté à la disparition de cette espèce qui s'appelle la star. Et donc, Tom Cruise incarne véritablement l'un des derniers visages de star que l'on puisse voir. Et surtout, au-delà de la fascination, du bonheur que l'on a à voir ce visage qui vieillit si peu, ou du moins qui se conserve si bien, eh bien, il y a l'intense plaisir de voir ce corps, de voir ce comédien qui réalise lui-même ses cascades. Alors, bien évidemment, quand on dit ça, réaliser ses cascades, c'était pas seulement cascadeur Tom Cruise, mais simplement ce que le bonheur qui nous est offert, c'est un comédien qui est également un corps et qui ne triche pas avec cette réalité, avec ce physique concret. Donc, oui, c'est un grand bonheur parce qu'en fait, c'est un cinéma qui était en train de disparaître, qui disparaîtra peut-être avec lui, mais qui nous est encore offert ce mercredi.
Les différences entre le Mission Impossible 1 et le Mission Impossible 7, on avait Brian De Palma, je crois, pour le 1, on n'était pas encore au 21e siècle. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change en trois décennies?
À la fois, il y a des choses qui changent pas tant que ça, parce que dans la mesure où le film de De Palma, qui est peut-être le meilleur de la série, sans doute le meilleur de la série, pose les fondamentaux sur lesquels se déploient, les six suites, véritablement. Donc, si vous voulez, c'était effectivement un grand film, simplement. Dans le film de De Palma, dans le 1, donc, on vivait encore avec les fantômes de la guerre froide. Oui. On était encore dans un horizon véritablement post-guerre froide. Or là, le méchant... dans cette incarnation actuelle, c'est une intelligence artificielle.
Et voilà.
Donc ce méchant est virtuel, il n'a pas de visage. Et donc, nous sommes passés enfin d'un univers où les méchants étaient clairement identifiés, au sens où ils avaient un visage, et désormais, ils n'ont plus de visage.
Alors Samuel, donc, c'est le 7, le 8 va sortir très vite, puisqu'effectivement...
L'année prochaine.
Oui, j'étais un peu plus rapide que ça, mais effectivement, il est en deux parties, en
Absolument,
quelque sorte.
Absolument, c'est un film en deux parties, mais en même temps, il y a véritablement ces deux parties, on comprend bien, sont clairement délimitées, donc il n'y a pas de problème, on ne sort pas désespéré de la salle.
Bon, très bien. Samuel, votre deuxième choix, un policier... Hongkongais intitulé Limbo, un film qui a été bloqué pendant 4 ans, je crois, par les autorités chinoises.
Absolument. Donc, nous parlons donc d'un film hongkongais réalisé par un metteur en scène qui s'appelle Soi Chiang.
C'est un policier.
C'est un film policier. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une tradition durant la saison d'été d'avoir le polar de l'été. À quoi avons-nous affaire tout d'un coup? Parce qu'un objet quand même tout, somme toute très particulier. C'est un film en noir et blanc. Intrigue classique, deux flics qui enquêtent sur un tueur en série, puis nous parlons de meurtre d'une violence paroxystique. Simple. Et l'essentiel du film se déroule dans des déchetteries. Donc, je veux dire, véritablement sur des tas d'ordures.
On est loin des tours magnifiques.
On n'est pas dans le Hong Kong, si vous voulez, high-tech, enfin, je veux dire, si vous voulez, qui était un petit peu là, qui était devenue la vitrine, l'une des vitrines du capitalisme chinois. Pas du tout, c'est l'inverse. Alors, bien évidemment, pour cela, au nom de cela, ça déplaît aux autorités chinoises. Ouais. C'est pas l'image de ce pays qu'ils veulent donner, mais surtout, nous parlons de Hong Kong. Je veux dire, sur lesquels les Chinois, je veux dire, ont véritablement, que les Chinois ont alpagué, véritablement, ou dans la mesure où les libertés sont désormais supprimées. Et ce film en est l'histoire de ce film en est l'illustration, puisqu'effectivement, il a été empêché pendant 4 ans. Au-delà de ça, ce dont on se rend compte, quand on voit, regarde le destin de ce film, c'est tout simplement, le cinéma hongkongais était l'une des cinématographies les plus brillantes des années 1980-90. Ouais. L'île a été rétrocédée à la Chine en 1997. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en 2023 et il y a pratiquement plus de cinéma hongkongais. Voilà. Cela s'appelle une dictature.
Mais on va quand même voir Limbo, ça vaut le coup.
Ah, et comment? Il faut absolument voir ce film.
Tiens, on va passer un film français. Petit extrait de la bande-annonce des Algues Vertes.
D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, à Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Et tu t'approches des algues vertes, tu es dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous avisez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Et tu tomberas toujours mal.
Lâchez la mort que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Voilà, c'est l'histoire et le combat de la journaliste Inès Leroux contre un système agroalimentaire très polluant. Et nous sommes en Bretagne. Un mot sur ce film, un film écolo, un film plutôt bien fait, mais qui a été compliqué quand même pour le réalisateur Pierre Jolivet.
En fait, on se rend compte que c'est devenu un sous-genre du cinéma français, mais pas seulement. Ce sont aussi des récits que développe le cinéma américain. Et en l'occurrence, ce sous-genre, c'est le scandale écologique.
Ouais.
Véritablement. Donc, c'est-à-dire que ça colle véritablement à notre époque. C'est-à-dire, si vous voulez, on se retrouve de nouveau avec ce schéma de l'individu seul devant la multinationale. Mais là, si vous voulez, c'est pas un scandale financier. Ce sont pas les méchants du western qui veulent tuer le shérif. C'est véritablement un individu contre une corporation et contre effectivement une planète que l'on piétine.
Samuel, on a beaucoup parlé d'Alain Delon ces derniers jours, le mythe Delon, la dernière grande star finalement du cinéma français avec Brigitte Bardot. Moi, je me dis, tiens, ce week-end, j'ai envie de revoir des films de Delon. Quels sont les trois films absolument à voir selon Monsieur Samuel Blumenfeld?
Alors, Plein Soleil, c'est le film qui révèle Delon sur le grand écran. Rocco et ses frères de Visconti. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui vient de ressortir dans une copie absolument magnifique, comme on n'a jamais pu voir le film depuis sa sortie en 1967. Plein Soleil et Rocco et ses frères, donc, il s'agit des débuts les plus flamboyants pratiquement pour un acteur dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que d'emblée, Alain Delon s'inscrit de plein pied dans l'histoire du cinéma et pour toujours, vu l'exceptionnelle qualité de ses films. Et Le Samouraï place Delon donc dans un rôle de tueur à gages, sans affect, froid, d'une incroyable mélancolie. Le Samouraï place Delon à un niveau supérieur qui n'est plus seulement celui de la star, mais qui est désormais celui du mythe.
Ouais. Et là, on entend quelques notes de la musique de Rocco et ses frères. C'est une musique absolument magnifique. Un film absolument incroyable, effectivement, qu'il faut voir et revoir, Samuel.
Un des plus beaux films de l'histoire du cinéma.
Merci Samuel.
Merci Renaud.
Le monsieur cinéma de Radio Classique, Samuel Blumenfeld, pour évoquer eh bien les sorties de ce mercredi et puis la carrière d'Alain Delon, n'hésitez pas, Le Samouraï, Plein Soleil, ou Rocco et ses frères, vous avez le choix ce week-end. Dans un instant, c'est le meilleur du journal.